Vous êtes sur Radio Grand Ciel pour le quart d'heure réservé aux petits. Je suis Isabelle et avec la complicité de Roland à la technique, j'ai choisi de vous lire un extrait d'un livre par l'auteur du livre de la jungle. Vous savez l'histoire de Mowgli et Bagheera? Son auteur, c'est Rudyard Kipling. Et là, l'extrait s'appelle... Alors, l'extrait n'est pas du livre de la jungle, c'est un autre livre, hein, bien sûr. Ça s'appelle « Toumaï et les éléphants ». En fin de compte, les éléphants purent se reposer et ils se couchèrent l'un après l'autre. Sauf Kala Nag, qui resta debout à l'aile droite de la rangée, se balançant avec lenteur de côté et d'autre. Ses oreilles géantes dressées pour écouter le vent nocturne qui soufflait doucement du haut des collines. Le petit Toumaï avait dormi un moment. Quand il se réveilla, il faisait un beau clair de lune et Kala Nag était toujours debout, les oreilles toutes droites. Le petit se coucha sur le dos, contemplant d'un air rêveur la silhouette noire qui se détachait, gigantesque, sur le ciel étoilé. Le silence de la nuit fut troublé comme par un sortilège. Tous les éléphants de la rangée s'étaient dressés, comme si le sol sous eux était brûlant. Leurs grognements réveillèrent les Maou endormis. Ils accoururent, enfoncèrent davantage les pieux avec leurs gros marteaux, tendirent les chaînes, attachèrent plus solidement les cordes, jusqu'à ce que tout redevint calme. « Fais attention qu'il ne s'excite pas, » dit le grand Toumaï au petit Toumaï. Puis il retourna dormir dans sa hutte. Le petit Toumaï était lui aussi en train de s'endormir quand il entendit tout d'un coup un grand craquement sec et net. La corde venait de se rompre et voilà Kala Nag parti au trot en silence comme un train de nuages. Le petit Toumaï courut après lui nu-pied sur le chemin rocailleux, l'appelant à mi-voix. « Kala Nag ! Kala Nag ! Emmène-moi, s'il te plaît ! Kala Nag ! » L'éléphant se retourna, fit deux ou trois pas en arrière, étendit sa trompe, saisit l'enfant et le mit sur son dos. À peine Toumaï s'était-il solidement cramponné à l'animal que le fourré de la jungle se refermait sur eux. Un dernier et furieux coup de trompette retentit dans les rangs des éléphants attachés. Puis le silence des bois engloutit tous les bruits, et Kala Nag se mit en marche. Le chemin montait, et en observant les étoiles au-dessus des arbres, le petit essayait vainement de savoir quelle direction ils avaient prise. Enfin Kala Nag atteignit la crête de la chaîne des collines et s'arrêta un moment. Le petit Toumaï contemplait les cimes des arbres immobiles au clair de lune qui s'étendaient sur des milles. Il se pencha pour observer, sentant qu'au-dessous de lui, le bois grouillait d'une vie intense. Une grande chauve-souris brune frôla son oreille. Un porc-épic remua sous le fourré. L'éléphant reprit sa marche. Les branches se refermaient à nouveau sur Toumaï. Kala Nag se mit alors à descendre la pente, mais pas sans bruit cette fois, en une course impétueuse comme un orage en marche. Les pattes énormes se mouvaient selon un rythme régulier, tels les pistons d'une machine, avançant de 2,50 m à chaque pas, et la peau ridée crépitait légèrement au niveau des articulations. Devant lui, l'épée fourrée se fendait comme une toile qui se déchire. Les jeunes pousses qui l'écartaient se courbaient et venaient fouetter ses flancs comme un ressort qui se détend. Le petit Toumaï se blottit alors dans les larges plis de la nuque de l'éléphant pour ne pas être balayé par le flot des branches. Et il regrettait la sécurité et la paix du camp. le sol devint marécageux. Kalanag pataugeait, éclaboussait à chaque pas. Et le brouillard froid et pénétrant de la vallée faisait frissonner le petit Oumaï. Puis il perçut un bruit d'eau qui coulait tout près, et Kalanag traversa le lit d'un petit ruisseau, éprouvant prudemment le fond à chaque pas. Au milieu de toute cette eau qui mugissait et tourbillonnait, Toumaï entendait un peu partout, vers l'amont et vers l'aval, patauger, souffler, grogner sourdement. Le brouillard environnant semblait peuplé d'ombres vacillantes. « Aïe !» s'écria Toumaï, en claquant des dents de froid. « Le peuple des éléphants est en marche. La danse va être pour cette nuit. » Kalanag sortit trempé du lit du fleuve, souffla l'eau qu'il avait dans la trompe et se remit à gravir la colline. Mais à présent, il n'était plus seul et n'avait plus à se frayer un chemin. Une piste fraîchement tracée de 6 pieds de large et où l'herbe essayait de repousser conduisait vers le haut du coteau. De nombreux éléphants avaient dû passer par là peu de minutes auparavant. En regardant autour de lui, Toumaï vit un très gros éléphant sauvage, un mâle, dont les petits yeux brillaient comme des charbons ardents et qui émergeait juste de la brume de fleuve. Puis des arbres lui masquèrent la vue. Il continua sa montée et partout on entendait des cris d'éléphants, des piétinements et le craquement des branches brisées. Arrivé au sommet, Kalanag s'arrêta entre 2 troncs d'arbres. Il se trouvait à l'entrée d'une clairière de forme approximativement circulaire, une immense clairière dont le sol était piétiné au point qu'on eût dit l'air d'une grange. Au milieu se dressaient quelques grands arbres, mais leur écorce était râpée, comme le remarqua le petit Toumaï, et le bois dénudé brillait au clair de lune. Des lianes, avec de grandes fleurs qu'on eût dites en cire et dont les calices s'étaient fermés pour la nuit, pendaient aux branches des arbres. À part cela, dans toute la clairière, pas une feuille, pas un brin d'herbe, que de la terre foulée. La lumière de la lune baignait cette surface durcie dans un reflet gris fer. Seules les ombres de quelques éléphants s'en détachaient, noires comme du charbon. Le petit Toumaï regardait et ses grands yeux lui en sortaient presque de la tête, et tandis qu'il se tournait de tous côtés, des silhouettes noires de plus en plus nombreuses, émergeant de la nuit, débouchaient dans la clairière. Le petit Toumaï, qui ne savait compter que jusqu'à 10, comptait, comptait, comptait sur ses doigts, jusqu'à ce que la tête lui tournât. Le piétinement des éléphants retentissait dans le bois, mais dès qu'il pénétrait dans la clairière, ils étaient silencieux comme des fantômes. Il y avait là de grands mâles sauvages avec des défenses énormes, les plis de leur peau remplis de lianes et de brindilles épineuses, des femelles grasses, sous le ventre desquelles gambadaient de petits éléphantaux de 3 ou 4 pieds de haut, des petits qui semblaient très fiers de leur défense en train de pousser. Des vieilles filles flasques amenaient à la danse leurs faces creuses et soucieuses. Il y avait aussi de mâles combattants ornés d'innombrables cicatrices et en fin de compte un puissant solitaire ayant une de ses défenses fendues et portant à son flanc, devenu gris par l'âge, la terrible marque de la griffe d'un tigre. Ils étaient serrés les uns contre les autres ou marchaient de long en large dans la clairière. Plusieurs solitaires restés à l'écart se balançaient de ci, de là, d'un air pensif. Partout des éléphants, et encore des éléphants. Toumaï savait qu'il ne risquait rien en restant tranquille sur le dos de Kalanag. Les pachydermes ne pensaient pas aux hommes, cette nuit-là. Ils ne tendirent l'oreille qu'une seule fois quand retentit dans le bois le cliquement des chaînes de fer qui attachent les pattes. Le petit Toumaï remarqua un troisième éléphant apprivoisé, portant les marques profondes des cordes sur le dos et la poitrine. Il avait dû, lui aussi, s'échapper d'un camp voisin. Enfin, le silence se rétablit dans la jungle, et l'on n'entendit plus d'éléphants s'approcher. Alors Kalanag quitta son poste parmi les arbres et vint rejoindre la mêlée. Et tous les éléphants se mirent à s'entretenir dans leur langage. Toumaï se vit alors dans un océan de dos gris, d'oreilles battantes, de trompes qui soufflent et de petits yeux qui roulent. Il entendait le cliquetis des défenses s'entrechoquant, de flancs et d'épaules qui se frôlent, et le sifflement incessant des queues qui cinglent comme des férules. Puis un orage vint voiler la lune, plongeant tout dans la nuit noire. Mais le bruit sourd des piétinements et des glouglous s'accentua. Toumaï savait que Kalanag se trouvait au cœur de la mêlée et qu'il n'était pas question d'en sortir. Saisi d'effroi, il serra les dents. Il était seul dans l'obscurité et il avait même senti une trompe qui tâtait son genou. Alors un des éléphants fit entendre comme un son de trompette. Tous les autres firent chorus et ce fut pendant quelques secondes un tintamarre infernal. La rosée tombait des arbres comme de la pluie sur des dos que l'on ne voyait pas. Puis un formidable tapage éclata dont Toumaï ne s'expliquait pas l'origine. D'abord, ce fut un bruit plutôt léger qui s'intensifia, et Kalanag leva une patte de devant, puis l'autre. Une, deux, on eût dit un marteau pilon. Les éléphants piétinaient lourdement le sol, en cadence. C'était comme un roulement de tambour étouffé devant une caserne. La terre tremblait, tanguait, le pilonnement sourd ne faisait que s'accroître, et assourdi, le petit Toumaï se boucha les oreilles. Par moments, Kalanag et les autres semblaient avancer pesamment de quelques pas. Le piétinement se faisait moins lourd sur les buissons verts et les fourrés écrasés. Mais quelques minutes après, le roulement sourd reprenait sur la terre compacte. Les éléphants étaient silencieux. Une seule fois, deux ou trois éléphantaux poussèrent de petits cris. Cela durait bien depuis des heures. Peut-être moins, peut-être plus. Le petit Toumaï se sentait brisé. Mais il percevait dans l'atmosphère les approches de l'aube. Une lueur jaunâtre apparaissait au-dessus des vertes collines et au premier rayon du jour, le piétinement cessa comme sur un commandement. Avant même que le bruit se soit évanoui dans ses oreilles, avant que le petit Toumaï ait eu le temps de se retourner, tous les éléphants avaient soudainement disparu. Aucun son, aucun signe n'indiquait où les formes noires étaient passées. Tout surpris, le jeune garçon contemplait la surface dévastée qui semblait s'être élargie pendant la nuit. « Oh là !» dit le petit Toumaï en frottant ses yeux fatigués. « Kalanag, mon prince, suivons Poudmini jusqu'au camp de Sahib, sans quoi je risque de tomber de ton cou. » Alors que 2 heures après, Pisseur Sahib était en train de prendre son petit déjeuner, ces éléphants qui avaient été cette nuit-là attachés avec une double corde se mirent à claironner. Et Poudmini et Kalanag rentrèrent au camp, fatigués, boitants et couverts de boue. Le visage du petit Toumaï était livide et défait. Ses cheveux noirs pleins de feuilles tombaient en mèches autour de sa tête. Il essaya de faire une profonde référence à Peter Sahib et s'écria d'une voix fatiguée. « La danse ! J'ai vu la danse des éléphants !» Et à présent, je vais mourir. Et lorsque Kalanag s'agenouilla, le jeune garçon évanoui glissa du cou de l'éléphant. Je ne sais pas s'il faut dire que ce petit Toumaï était courageux ou inconscient, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a vu quelque chose que très peu d'hommes, peut-être même personne, n'a jamais vu. Cette danse des éléphants, c'est un mystère, non ? Merci Roland à la technique et puis à vous, à bientôt, au revoir.